c'est le moment d'accueillir Alice Burban, la coprésidente de l'association Mayenne Nature Environnement. Bonjour.
Bonjour.
Donc, association qui fête cette année ses 40 ans. Donc, ça va être l'occasion justement de faire un petit peu le point sur l'association. Association qui compte beaucoup d'adhérents en Mayenne, hein, plus de 400, c'est ça?
Oui, 439 exactement cette année. Donc, on s'en ravit d'ailleurs, puisqu'on a augmenté sensiblement et passé la barre des 400, c'est bien quoi.
Ah oui, sur un département comme la Mayenne, oui. Ça représente quand même un nombre vraiment conséquent. À chaque fois, on le sait, un anniversaire, c'est aussi l'occasion de regarder un petit peu en arrière et de revenir justement vraiment à la création de l'association en 1982. Qui est-ce qui en a été à l'origine et avec quelles envies?
Alors, en fait, il existait une société savante qui étudiait la nature qui s'appelait Mayenne Science, qui était beaucoup par rapport, constituée d'universitaires et puis de passionnés de certaines espèces. Et en fait, il y a eu un petit groupe dissident, on va dire, qui en fait avait la volonté d'ouvrir et de sensibiliser d'engager plus de monde, ne pas rester entre soi, on va dire. Et donc il y a eu une scission et il y a eu la création de Mayenne Nature Environnement, parce que ça avait été discuté forcément dans les instances avec Mayenne Science. Et en fait, il y avait une partie des fondateurs de Mayenne Science qui ne voulaient pas en fait, s'engager sur la sensibilisation, les animations.
L'ouverture finalement vers le public.
Ils étaient plus sur l'étude et non pas sur l'ouverture sur le public, quoi. Donc voilà, la scission s'est faite et il y a eu la création de Mayenne Nature Environnement. Avec un nom qu'il fallait trouver, donc c'est ce nom qui est sorti, puisque, et en fait après ça a fait école dans les autres départements, puisque ça existe, et puis jusqu'à la création de la Fédération pour la Nature et l'Environnement, FNE.
Là, ça s'est fait dans votre sens finalement.
Voilà, l'origine de cette appellation, enfin de la façon dont est constituée l'appellation, vient de Mayenne Nature Environnement, donc l'idée était bonne.
Une bonne idée qui a été reprise en effet. Est-ce que c'est aussi lié au fait que, ici on le disait, donc, l'association a 40 ans, peut-être que dans les autres départements, c'est des antennes qui sont plus jeunes?
Sont constituées effectivement après, à partir de... Ça a créé un élan. Alors il y avait aussi des échanges au niveau national, à ce moment-là, des organismes qui n'existent pas, mais ça a créé, ça a essaimé, oui.
Et vous le disiez, en tout cas, déjà dès le début, il y avait dans l'ADN vraiment la sensibilisation du public, l'ouverture avec beaucoup de choses proposées vers l'extérieur. Ça fait vraiment toujours partie des missions de Mayenne Nature Environnement aujourd'hui.
Ah, complètement, parce qu'en fait, l'idée, et moi, ça fait 37 ans en fait, que je suis dans l'association, donc je ne fais pas partie des fondateurs, mais c'était, en fait, si on connaît, on protège, en fait, parce que l'idée, c'était aussi la protection de la nature. Et donc, il fallait faire connaître. Donc, ça a été d'abord une grande sensibilisation dans les écoles, en se disant, les enfants qui vont grandir, forcément, s'ils sont sensibilisés, ils vont protéger. Et donc, par exemple, le premier salarié de Mayenne Nature Environnement, ça a été un éducateur environnement, pour intervenir dans les écoles, pour présenter des projections sur la nature et proposer des sorties au public. Mais ça a été le choix de fait, c'était la priorité.
Sur de la faune et de la flore locale ou pas seulement? L'idée, c'est aussi d'agrandir à toute la biodiversité, on va dire, en général.
Absolument. Donc, en fait, par rapport aux sorties qu'on propose encore, c'est aussi en fonction des compétences des bénévoles qu'on a et des salariés qu'on a. Donc, on essaye effectivement de répertorier un certain nombre d'espèces. Alors ça va de l'ornithologie, les chauves-souris, les amphibiens, reptiles, la botanique, l'observation du ciel aussi, puisqu'il y a un groupe astro qui avec une rotonde à Maisoncelles. Et il y a aussi un certain nombre de bénévoles qui sont entomologistes, donc il y a aussi les insectes, les papillons. Et dans notre idée de sensibilisation en fait par rapport à ces espèces, on a fait paraître des atlas pour que ces richesses mayennaises en fait soient connues, identifiées et puis alors par les gens qui sont déjà sur le terrain, mais qu'il y en ait d'autres qui s'y mettent. Et donc, on a un atlas papillon, les oiseaux nicheurs de la Mayenne, on a un atlas flore, on a une petite plaquette sur les orchidées mayennaises, sauvages bien entendu, et sur les rapaces nocturnes.
Et j'imagine que ça, ça nécessite un gros travail, en tout cas, de collecte aussi, de, enfin, je ne sais pas quel est le mot employé en tout cas, mais d'observation pour ensuite faire les atlas.
Oui, c'est beaucoup de terrain. Puis après, il y a toute la conception. Et en fait, pour faire un atlas, en fait, il faut 5 ans en fait, de travail. Mais c'est aussi l'occasion d'engager les gens à aller sur des secteurs qui sont moins prospectés et puis de s'y mettre. Et donc là, l'apparition d'un atlas, c'est aussi une émulation en fait, pour se dire, ben, là, on connaît un peu moins, on va y aller. Et puis, parce qu'il faut absolument qu'on couvre tout le territoire de la Mayenne, quoi, pour que ça soit exhaustif quand même.
Et est-ce qu'il y a des espèces comme ça que vous avez redécouvert ou qui ont été exhumées, qu'on avait oubliées peut-être, si on peut en citer quelques-unes grâce à ces atlas?
Alors oui, en fait, c'est au niveau botanique souvent, hein, puisque au niveau ornithologique, en fait, c'est assez suivi, puis il y a un groupe assez conséquent, donc c'est assez répertorié, mais au niveau botanique, en fait, il y a toujours des redécouvertes, et dans nos rapports d'activité annuels, en fait, puisqu'il y a les activités de chaque groupe, par exemple, cette année, il y a eu une nouvelle station de petites pyroles, espèce protégée en danger en France et en danger critique d'extinction dans la région des Pays de la Loire, une nouvelle station de lèche appauvrie, hein, et des espèces aussi, 9 nouvelles espèces indigènes. Alors les espèces indigènes, c'est celles qui sont venues d'ailleurs et en fait qui colonisent un peu des milieux, mais ça fait partie aussi des évolutions de la nature et c'est souvent lié maintenant au réchauffement climatique.
Donc oui, j'imagine que forcément ça, vous les observez, ces conséquences du réchauffement climatique au quotidien. Ça a un impact aussi sur vos activités, ou en tout cas j'imagine que ça fait prendre conscience d'autant plus de l'importance en tout cas de sensibiliser à toute cette biodiversité.
Absolument, parce qu'en fait, au niveau du changement climatique, c'est une évolution forcément de la biodiversité, mais c'est aussi un indicateur, dans les effets que ça a sur... l'importance, en fait, de l'état de nature. Et le réchauffement climatique prend, en fait, a des effets encore plus importants si la nature est dégradée. On le voit par rapport au déclin de la biodiversité, mais là, par exemple, on est très attentif, enfin, et on est très en alerte et en sensibilisation par rapport à l'existence de haies, parce que c'est ça fait partie du patrimoine mayennais, mais c'est aussi parce que donc c'est des puits de carbone, bien entendu, mais en fait c'est des réserves de biodiversité et ça permet aux espèces de se nourrir, de trouver refuge on se dit que c'est pas par hasard qu'il y a le déclin de la biodiversité, parce que les haies, 600 km par an qui sont disparus en Mayenne pour s'en replanter, c'est énorme. Donc on a dégradé des milieux et des habitats en fait qui peuvent d'eux-mêmes et assez on va dire assez simplement entre guillemets, si on conserve un peu des bonnes pratiques, lutter et apporter leur contribution à la lutte contre le changement climatique.
Donc il y a des choses à faire, même ici en local. Vous parliez des haies, peut-être d'autres exemples aussi de choses qu'on peut faire même chez soi pour essayer de favoriser justement cette biodiversité vraiment chez soi en local.
Oui, alors cette année, on a toujours une campagne d'année et en fait, on a choisi Nuit Noire et Biodiversité. Parce que là aussi, les activités humaines empiètent sur la vie des espèces. Et donc souvent, pour arriver à exister, elles ont choisi d'être nocturnes pour être moins dérangées, mais l'éclairage et puis les activités qui se passent la nuit humaine, en fait, font du dérangement. Et par rapport à ça, tout un chacun, en fait, peut accepter aussi et faire en sorte que, eh ben, il n'y ait pas d'éclairage dans son jardin, par exemple. Hein, puisque ben, c'était aussi ça a été aussi une mode et puis d'éviter les bruits aussi puisque les bruits dérangent beaucoup en fait hein, dans la nuit et déjà ça apporterait un petit peu de quiétude aux espèces nocturnes. Quoi.
C'est pourquoi avoir choisi justement ce thème-là en particulier cette année
Alors. Dans la campagne, en fait, qu'on choisit chaque année, c'est pour mettre un peu le flash sur un aspect d'une possibilité ou de mieux connaître aussi des espèces. Donc, cette année, on l'a fait parce qu'en fait, il y a une loi, par exemple, qui oblige à ne pas éclairer ses enseignes la nuit, mais qui n'est pas respecté.
Pas du tout respecté.
Donc, ouais. En fait, ce qu'on veut aussi, puisqu'on a un rôle de veille et d'alerte, ce qu'on veut aussi amener, c'est faut pas oublier cet aspect-là. Et puis expliquer aussi que ça a une forte utilité, en fait. Donc, on a une quinzaine de sorties nocturnes, justement, dans l'année, sur notre agenda de 2022, pour aussi que les gens viennent découvrir et les rapaces, les amphibiens, le ciel aussi, les libellules, les chauves-souris, pour que ça devienne quelque chose dont on se soucie.
C'est vrai que quand on pense respect et de la biodiversité et protection, on ne pense pas forcément à tous ces animaux nocturnes que vous venez de citer. Et donc là, c'est aussi l'objectif avec ces sorties-là d'éveiller un petit peu les consciences.
Absolument, absolument, parce que ils sont là, ils existent. Alors, ça fait partie intégrante de nos potentiels de biodiversité, quoi. Donc préservons-les, quoi.
Avec notamment, vous parliez des sorties, la prochaine, ben c'est très bientôt, c'est mardi prochain, autour de la nuit, la Mars anime, c'est l'intitulé de cette sortie. Il y en aura ensuite plus tard, hein, je ne vais pas tout citer, mais notamment là aussi, autour des champs nocturnes, autour des Mars le 22 avril, et puis d'autres à venir effectivement tout au long de l'année. Ces sorties, elles sont d'ailleurs très nombreuses, notamment en ce mois-ci, ce mois d'avril, parce que c'est le printemps, c'est ça ?
Oui, 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 bah c'est l'éveil, hein, l'éveil de la nature, hein, mais aussi comment ça peut être aussi l'occasion de sortir un petit peu plus pour les personnes. Donc on en a pas mal au mois d'avril, on en doit en avoir
une dizaine peut-être.
parce qu'on a envie de fêter le printemps aussi, hein, et puis voir cette nature qui s'éveille, en fait. C'est toujours un émerveillement.
Et c'est accessible, c'est... j'imagine, dès les petits aussi ?
Absolument, on s'adapte. Oui, c'est tout public en général. Il y a quelques sorties réservées aux adhérents parce que ça, c'est quelquefois au niveau du nombre. Il y a un nombre limité parce que ça dépend de l'accès des sites ou choses comme ça, ou des partenaires avec qui on organise ces sorties. Mais la majorité sont tout public.
Donc, et on peut retrouver justement ce programme sur le site de l'association, j'imagine ?
Absolument, et puis on peut passer à Louverney, puisque nous sommes à Louverney, le siège est à Louverney, prendre des plaquettes si besoin est.
Pour retrouver effectivement toutes ces sorties nature. Je me demandais, vous-même, vous disiez, ça fait 37 ans que vous faites partie de l'association. Qu'est-ce qui vous a incité à faire le premier pas et à rejoindre justement Mayenne Nature Environnement ?
Alors moi, en fait, j'ai participé, puisque en fait, les propositions de sortie, ça existe depuis le départ, puisque, comme on l'a dit, c'était sensibiliser, faire découvrir. Et en fait, moi, j'ai participé à des sorties. Alors, j'étais un peu plus axée sur l'ornithologie, hein, sur l'observation des oiseaux. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et aussi, je me suis dit, dans mes premières sorties, mais en fait, je découvre quelque chose que je ne voyais pas avant et dont je n'avais pas conscience que ça existait. Parce qu'en fait, on apprend à regarder, en fait.
Maintenant, vous n'avez pas le même œil qu'avant de rentrer dans l'association.
Absolument. Et puis après, les choses faisant, je me suis intéressée à l'association, à son fonctionnement, à ses activités. Et puis, j'ai été bénévole. Et puis après, administratrice. Après, présidente, coprésidente. Et parce que aussi, nos objectifs, en fait, sont de plus en plus importants pour moi, à atteindre, parce que on est dans une situation où on parle de la sixième extinction de masse, et c'est important, en fait, de se mobiliser, et donc on donne du temps et puis de l'énergie.
C'est pour ça aussi, c'est ce qui guide votre action et votre mobilisation ?
Absolument, absolument.
C'est ça, qu'est-ce qui est pour vous, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup j'imagine, mais le plus grand chantier là pour les prochaines années, vraiment l'objectif, l'urgence, elle est où pour vous ?
Alors l'urgence, c'est pour nous, et c'est nos orientations, puisqu'on vient de voter notre projet associatif jusqu'à 2027, là, c'est de faire en sorte de mobiliser pour protéger la nature ordinaire. Puisqu'en fait, la nature ordinaire, elle est en danger. Ce qui était moins perçu au début de l'association. On protégeait, enfin, on informait, on essayait de protéger des espèces remarquables pour pas qu'elles disparaissent de la Mayenne. Mais là, c'est la nature ordinaire. Donc, il y a tout un travail de... Alors, protection de diversité de milieu. Parce que qui dit diversité d'espèces, en fait, diversité de milieux. Et puis aussi, alors, de renaturation. Alors, il y en a pour qui le mot heurte un petit peu, mais je trouve qu'il est assez parlant. C'est, il y a des lieux urbains, semi-urbains, voire ruraux, qu'il faut renaturer. Renaturer dans le sens où il faut des végétaux, il faut des conditions, alors on va parler de moins de lumière par exemple, mais aussi par rapport au bruit aussi, des conditions qui vont favoriser les espèces, les oiseaux, mais aussi les insectes, les papillons se retrouvent à manger. Alors il faut qu'ils trouvent à manger déjà, parce que ça est la survie des espèces, et puis qui trouvent aussi à pouvoir se reproduire. C'est un défi. Hein, parce que, en fait, regardons autour de nous, il y a beaucoup de surfaces artificialisées avec quand même peu de nature. Et puis, on l'a vu pendant le confinement. Hein, quand il y a eu moins de dérangements, et puis quand il y a eu la nature, elle est prête à y aller, sauf qu'il lui faut un peu des conditions. Hein.
Donc c'est laisser cet espace là finalement.
Absolument.
Redonner en tout
et
cas
puis
cet espace-là.
Redonner et redonner sa place, et penser que il n'y a pas que l'activité humaine. C'est l'activité humaine, elle existe, d'accord, mais d'abord on a tout intérêt à laisser aussi les espèces cohabiter avec nous, parce que aussi c'est beaucoup de bien-être.
Mais merci beaucoup en tout cas Alice Burban d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la coprésidente de l'association Mayenne Nature Environnement qui fête ses 40 ans.